bienvenue sur les Arts du Fleu numéro 11. Arts du Fleu, c'est le podcast qui associe théorie et pratique de classe dans l'enseignement du français langue étrangère. Alors avant de passer au sommaire de ce numéro 11, je vous souhaite une très bonne année 2014 et je vous souhaite de faire ce que vous aimez et d'aimer ce que vous faites. Et puis je souhaite aussi revenir sur le numéro 10, le précédent. Alors avec une petite précision, parce que j'avais dit des bêtises sur le labo de langue de Didier, notamment en ce qui concerne les comptes élèves. Alors Sébastien Rodelet a bien voulu répondre à quelques-unes de mes questions et apporter des précisions au sujet du labo de langue. Alors en fait ce que j'avais dit c'était que chaque élève devait avoir une nouvelle adresse email pour chaque inscription au labo de langue, ce qui est en fait faux puisque les élèves d'une part n'ont pas besoin d'adresse mail pour être inscrits et ce sont les profs qui les inscrivent. Et en plus de ça, donc il est possible d'exporter, importer, je vais revenir un petit peu là-dessus, les comptes élèves. Donc c'est-à-dire que quand vous êtes sur votre labo de langue et que vous voulez prendre des élèves qui ont utilisé un autre labo de langue le trimestre précédent, eh bien il vous suffit tout simplement d'entrer les identifiants du précédent labo de langue et vous pouvez importer tous les élèves en une fois. Alors vous ne pouvez pas importer une seule partie et malheureusement si c'est un autre enseignant qui avait le trimestre précédent vos élèves, eh bien il va falloir lui demander son identifiant et son mot de passe pour pouvoir récupérer ses comptes élèves. Néanmoins, ce qui est pas mal, c'est que les élèves se retrouvent automatiquement inscrits sur le nouveau labo de langue, le vôtre donc, mais même s'ils n'ont plus accès aux ressources du précédent manuel, ils ont accès donc aux ressources du nouveau et ils gardent leurs anciens travaux. Donc ça c'est quand même très bien. À noter toutefois que Sébastien me faisait remarquer qu'il y avait des évolutions qui allaient arriver sur le labo de langue et que bientôt il y aura donc une troisième possibilité après la création et l'importation de comptes élèves pour inscrire un élève, eh bien ce sera l'élève qui s'inscrira lui-même et qui l'associera à un compte professeur pour faciliter la tâche du prof. Donc voilà un petit peu pour les rectifications quant aux informations que j'avais données sur le labo de langue des éditions Didier. Alors au sommaire de ce numéro 11, eh bien on aura des actus. Un dossier sur les tableaux interactifs avec Jean Condé, qui est cofondateur du site Interactifle. On aura aussi un entretien avec Claire Touchard qui nous présentera un outil qui s'appelle Éducation et numérique. Et enfin, la rubrique fourre-tout. Et c'est parti pour les actus. Et on commence les actus avec l'école communautaire en partenariat avec FLE.fr. Alors, avec plusieurs formations en janvier, février et mars. Tout d'abord, le 17 janvier, une formation à l'utilisation des tableaux interactifs avec Elodie Ressouche comme animatrice d'atelier. Ensuite, le 14 février, eh bien, il y aura une formation sur le web documentaire en classe de FLE, en voir, en faire, ressources et outils. Alors cet atelier sera animé par Catherine Ricoul, qui est enseignante de FLE et puis ingénieure pédagogique multimédia à l'université d'Aix-Marseille. Le 15 février, il y aura aussi un autre atelier, alors qui sera plutôt une rencontre cette fois sur la question « Tous entrepreneurs ». Donc ça s'inscrit un petit peu dans la réflexion sur les métiers du FLE que mène FLE.fr. Et donc ici, on vous parlera de devenir auto-entrepreneur ou de créer donc sa propre boîte de FLE. Et enfin, le 7 mars, un atelier qui s'appelle « Apportez vos tablettes » qui sera animé par Laurent Carlier et qui portera sur l'utilisation des tablettes côté enseignant et puis aussi de tester des applications d'analyse, de mémorisation, de création pertinentes en contexte pédagogique. Et puis une séquence qui sera consacrée aux questions à se poser avant d'intégrer des tablettes dans la classe. Alors pour toutes ces formations, eh bien à chaque fois le tarif est de 75€. Si vous êtes étudiant, c'est 50€. Et puis bien sûr, vous pouvez toujours les faire dans le cadre de la formation continue. Pour la rencontre Tous Entrepreneurs, là évidemment, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire quand même. On continue avec l'université de Nebrija, je fais pas l'effort de prononcer en espagnol parce que ce serait une catastrophe. L'université de Nebrija en Espagne qui organise le deuxième congrès international de linguistique appliquée à l'enseignement des langues qui a pour titre « En route vers le multilinguisme ». Donc ici ce qui sera vu c'est comment la linguistique appliquée peut apporter des réponses aux multiples enjeux que pose le plurilinguisme. Il y a plusieurs langues qui seront représentées, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français. Et donc ici, il s'agit d'un appel à communication. Il y a quatre types de communication. Les communications, les posters, les ateliers et les chercheurs débutants. Les communications orales devront porter essentiellement sur des thèmes théoriques et correspondre aux lignes directrices du congrès. Vous trouverez bien sûr toutes les informations sur le blog artdufleu.net et dans les notes de l'émission. Et là, une communication orale devra durer 20 minutes avec en plus 10 minutes de débat derrière. Et les communications peuvent être le travail de plusieurs auteurs. Les ateliers, donc là ça dure au maximum 60 minutes et ça doit avoir un caractère très pratique. Les posters, donc là vous devez réaliser un format A1 pour montrer l'état de vos recherches et puis les expériences d'enseignement que vous avez faites. Et là c'est exposé durant tout le congrès. Et puis il y aura aussi 5 minutes réservées à la présentation pour que les auteurs puissent exposer leur travail et répondre à des questions. Et enfin, pour les chercheurs débutants, eux, ils auront 15 minutes pour présenter leurs travaux de fin d'études et puis 5 minutes de débat avec le public. Le congrès aura lieu du 26 au 28 juin 2014 et la date limite d'envoi pour vos propositions de communication, c'est le 31 mars 2014. Ensuite, vous aurez une réponse le 30 avril et puis la publication définitive du programme, ce sera en juin. Et on passe maintenant au MOOC avec le premier MOOC de FLE, français langue étrangère, qui s'appelle « Travailler en français ». Alors, le MOOC, hein, c'est « Massive Open Online Courses ». Alors, celui-là, il a pour objectif d'aider les apprenants à acquérir des connaissances et des savoir-faire en français pour rechercher un emploi en France ou dans un pays francophone. Donc là, il s'adresse à des apprenants de niveau intermédiaire, donc niveau B1 en cours d'acquisition, selon le cadre européen. Et il est ouvert et gratuit. Il commence le 15 janvier, donc probablement qu'au moment où vous l'écoutez, il aura déjà commencé. Alors, ce MOOC présente plein d'outils, un calendrier, une rubrique actualité, une rubrique qui présente l'équipe aussi, je reviendrai là-dessus. Et puis, il va durer 5 semaines. Et chaque semaine a un thème. Donc la première semaine, c'est où et comment chercher, donc un emploi. La semaine numéro 2, c'est réaliser son CV. La semaine numéro 3, rédiger une lettre de motivation. La semaine numéro 4, se préparer pour un entretien de recrutement. Et la semaine numéro 5, travailler dans une équipe multiculturelle. Ça va durer donc jusqu'au 26 février, où là, ce sera le bilan qui commencera. À noter aussi qu'à chaque fois pour le MOOC, il y a une boîte à outils qui est assez intéressante. Alors, je développe pas beaucoup plus, hein, parce que en fait, on aura l'occasion de recevoir Jérôme Rambert, qui fait partie des organisateurs de ce MOOC, avec l'Institut français de Madrid. Alors Jérôme, c'est aussi l'auteur de Chez Jérôme, hein, le blog, et puis Passe ton Delphes. Et il viendra donc en avril faire le bilan avec nous de cette expérience de MOOC en français langue étrangère. Mais si vous regardez dans la rubrique boîte à outils, vous verrez tout ce qui est disponible, avec un journal de bord, comment faire des visioconférences, une grille de préparation, mais aussi des outils pour collaborer. Alors là, il y a des outils qui sont intéressants. Il y a un forum, évidemment. Il y a Google Drive, mais il propose aussi l'alternative libre de Framapad, un outil de carte mentale, le MindMap. Pour collaborer en temps réel, sans inscription, il y a aussi Stoodle, les Hangouts qui sont proposés, et puis plein d'autres outils que vous pouvez découvrir, parce que moi j'ai découvert des outils assez intéressants dans toute cette liste. Voilà, je leur souhaite de bien fonctionner et que les apprenants soient contents, apprennent pas mal de choses. En tout cas, c'est une très belle initiative et bien j'attends avec impatience Jérôme qui viendra nous expliquer, nous raconter et faire le bilan de cette expérience. Et on termine ces actus avec France Horizon, qui est un programme de séjour linguistique organisé par les experts, donc sur lesexpertsfleu.com. On avait déjà parlé de ce séjour dans le numéro avec Evelyne Rosen. Donc ils ont la particularité, ces séjours, d'être complètement en immersion avec des petits groupes, 12 personnes, et puis encadrés par 4 professeurs dans une ambiance détendue. Il n'y a pas de cours en classe, mais des activités toujours liées aux visites et aux activités. Je sais que les apprenants participent à l'organisation des visites et des activités, donc ça c'est vraiment pour le coup de l'actionnel. Vous pouvez donc télécharger la brochure et puis l'envoyer à vos étudiants, je pense que ça pourra en intéresser beaucoup. Ça se déroule à Paris et à Nice, et puis ben, vous pouvez d'ores et déjà contacter les experts, alors en passant par le site lesexpertsfleu.com ou alors en passant directement sur le site de France Horizon. Vous retrouverez donc le lien vers le site lesexpertsfleu.com et vers France Horizon, et la brochure à télécharger dans les notes de l'émission ou sur le blog artdufleu.net. Voilà, c'est tout pour cette rubrique Actu, et on va passer maintenant au dossier avec Jean Condé pour parler des TBI. Alors pour ce dossier spécial TBI, je reçois Jean Condé, enseignant de FLE, formateur de formateurs à Paris 8 et au CIEP, concepteur de ressources et fondateur d'Interactif FLE. Bonjour Jean.
Bonjour Sébastien.
Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre ensemble à toutes ces questions sur les tableaux interactifs, à savoir ce que c'est, comment on les définit, comment on les utilise, qu'ils peuvent apporter en cours. Et peut-être d'abord, je te demanderai de présenter un peu Interactif FLE, dont tu es le fondateur.
Oui, alors le cofondateur. Je l'ai fondé avec Christina Fernandez, une amie proche avec qui j'ai fait mon master, etc. Interactif FLE, c'est une association. Et c'est aussi un site internet. Voilà. Donc, c'est un support à travers lequel on va partager des ressources pour le TBI. Et puis on propose aussi des formations de formateurs pour l'usage pédagogique du tableau blanc interactif. On a pour l'instant une centaine de ressources qui sont disponibles. Et puis voilà ce qu'on propose globalement comme service.
Ouais, et vous proposez donc des ressources en français langue étrangère et puis aussi pour les enfants, c'est ça?
Oui, c'est ça. On vient d'ouvrir une rubrique pour les enfants, ouais. Pour les enfants, pour les petits, l'école primaire. Et sinon, pour l'instant, on est cantonné au A1, A2. Une question de temps de conception. Un jour, peut-être, nous arriverons à passer le cap du B1, mais c'est pas sûr pour le moment.
Eh oui, parce que c'est assez chronophage, j'imagine, de faire toutes ces activités, en plus de tes activités déjà au CIEP, à l'université, etc. Quoi.
Oui, alors à vrai dire, moi, je me charge en principe plutôt du développement du site. Et c'est ma collègue Christina Fernandez qui est en fait responsable pédagogique et qui donc se charge de mettre en ligne les activités, de corriger les activités qu'on peut nous envoyer. D'ailleurs, je salue Igor et Marion, hein, qui sont nos concepteurs étrangers qui nous aident beaucoup, notamment pour la partie enfant.
Alors, on va peut-être commencer par la question la plus simple. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est un tableau interactif avec toutes ces différentes appellations de TBI, TNI, et nous expliquer un peu ce que c'est, en fait, tout simplement.
Alors, tableau blanc interactif, donc c'est l'acronyme TBI, qui signifie exactement la même chose que TNI, tableau numérique interactif. Il me semble que TNI, c'est une appellation un peu plus moderne, un peu plus récente. Et certains appellent TNI et puis critiquent l'appellation TBI. Pour moi, ça fait absolument aucune différence. Les problèmes, il y en a suffisamment pour pas les mettre à des endroits où il n'y a absolument pas besoin de discuter. Alors, le TBI, qu'est-ce que c'est? C'est deux formes, hein, actuellement. Soit un écran tactile type télé. Donc là, c'est une grosse tablette tactile qu'on peut mettre dans sa classe. Et puis donc, on imagine un énorme écran, de télévision sur lequel on peut toucher. Mais le plus courant, c'est donc un panneau tactile sur lequel va être vidéoprojeté l'image du PC. Voilà, donc il faut trois éléments. Un vidéoprojecteur qui projette une image sur un support qui va être tactile, et puis un ordinateur qui sera la source média.
D'accord. Et j'avais vu aussi qu'il y avait des solutions mobiles et des solutions fixes, c'est ça?
Oui, c'est ça. Bon, alors la plupart du temps, on utilise des supports fixes. Alors avec maintenant, c'est des focales courtes, des vidéoprojecteurs qui sont intégrés au panneau tactile pour limiter un maximum le passage de câbles, etc., qui sont quand même pas mal dérangeants dans la classe. Mais il existe effectivement, notamment chez iBeam, il existe des sortes de pieuvres en fait qu'on va attacher, qu'on va fixer au système de ventouse en haut dans l'angle du tableau blanc classique, et puis via un système radio avec un petit stylet qui va envoyer des mini signaux radio à la pieuvre, on va pouvoir transformer son écran, son tableau blanc en tableau tactile. Alors c'est vraiment pas mal hein, parce qu'on peut emporter son TBI partout avec soi, en cours privé par exemple, ou dans une si jamais on change de classe, admettons, ou dans une école avec peu de moyens, on peut changer facilement le tableau blanc de classe. Par contre, là, le gros inconvénient, c'est que ça laisse traîner des câbles un petit peu partout. Il faut imaginer qu'il y a un câble qui est USB qui va relier la pieuvre au PC et puis un autre câble qui va relier le PC au vidéoprojecteur. Voilà, donc, pour un peu qu'on ait une souris et puis l'alimentation de l'ordinateur. Bref, il y a des câbles partout dans la classe. C'est quand même beaucoup moins pratique que le tableau fixe.
Et ces tableaux, justement, là, je pensais justement quand tu parlais de eBeam, il y a une société française dont il faudra que je mette le lien dans les notes de l'émission qui s'appelle Speechy, qui propose des solutions à partir des produits eBeam. Justement, je mettrai le lien si les gens sont intéressés par ce genre de produits. Donc, ces tableaux sont toujours utilisés avec un logiciel, c'est ça?
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les tableaux ont besoin d'un éditeur de contenu. Alors, il y a plusieurs types de logiciels qui existent. Il y en a un en général qui est la référence pour chaque marque de tableau. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, Promethean, qui est un gros constructeur, va utiliser le logiciel Active Inspire. eBeam va utiliser le logiciel Speechy. Smart Technology utilise le logiciel Notebook. Et puis, il y a un éditeur de contenu qui s'appelle Sancore, qui est un éditeur libre d'accès et qui est donc transversal qu'on peut utiliser sur tous les tableaux.
D'accord. Et ces logiciels, ça c'était un peu une question de Frédéric. Est-ce que ces logiciels peuvent partager les mêmes ressources ou à chaque fois ce sont des ressources dédiées?
Alors, il y a la possibilité de partager les ressources. Donc, il y a des compatibilités de programmes, notamment avec les deux plus gros constructeurs, donc Active Inspire et Notebook. Il y a une compatibilité, c'est-à-dire que le point Notebook va être, on va pouvoir le lire sur le logiciel Active Inspire et l'inverse aussi est possible. Donc, ça permet, je crois de mémoire, que Smart, ils sont à 55 ou 60% de part de marché. Et Promethean doit être aux alentours de 25%, donc on est déjà, on touche 75% du marché du TBI avec ces deux logiciels-là, où toutes les ressources qui vont être faites par les enseignants et mutualisables potentiellement vont être voilà, vont être lisibles sur les deux supports.
Pardon.
Sans Corée, qu'est-ce qu'il y a?
Non, 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 parce que quand tu disais lisible, je voulais savoir s'il était aussi possible de les modifier avec les autres logiciels. Si par exemple, j'ouvre une ressource notebook avec, tu parlais de Active Inspire, est-ce qu'il est possible de les modifier ou seulement de les lire?
Oui, alors oui, il est possible de les modifier. Dans ce cas-là, il est possible de les modifier.
D'accord.
Ouais. Par contre, si jamais on n'a pas ce logiciel-là et qu'on a un logiciel qui n'est pas compatible, alors par exemple, donc nous on travaille avec Notebook. Peut-être que tout à l'heure on parlera de la raison pour laquelle on travaille avec un logiciel payant. Si jamais on n'a pas de logiciel, par exemple, ni Active Inspire ni Notebook et qu'on travaille avec, admettons, Speechy, on ne peut pas lire les ressources. Mais c'est possible de télécharger un notebook viewer qui est juste un lecteur qui va nous permettre de diffuser la ressource mais pas de la modifier ni de l'enregistrer. Voilà, c'est la limite du lecteur. Mais ça veut dire quand même que tout le monde peut utiliser les ressources.
Ok, et tu allais parler de Sankore quand je t'ai interrompu, pardon.
Non, non, pas de problème. Donc oui, Sancore, c'est un logiciel qui est très bien fait hein, avec lequel je travaille à Paris 8. Notamment qui est transversal. Donc, pour le coup, c'est un logiciel libre, libre de droit, qui permet d'utiliser les ressources sur n'importe quel tableau.
D'accord, oui. Et tu disais donc vous sur Interactif Le, vous avez fait le choix de notebook, c'est ça?
Oui, alors c'est ça, oui. Alors, pour plusieurs raisons, la première, c'est que donc moi, j'ai été formé sur Notebook. J'ai toujours travaillé dans des instituts où il y avait Notebook. Ça, c'est la première raison, hein, c'est-à-dire moi, mes compétences, quoi, qui étaient tournées davantage à la base sur ce logiciel-là. Ensuite, c'est avéré que le logiciel est sans doute le meilleur sur le marché actuellement, bien que la question du flash se pose. Je pense qu'il y a certains auditeurs, sans doute, qui utilisent les activités interactives-le, qui ont pu constater, par exemple, que beaucoup d'activités flash peuvent sauter au moment du téléchargement. Et donc, ça pose quand même pas mal de problèmes parce que, puis en plus, flash n'étant pas libre, c'est vrai que comme le disait un de vos commentaires, flash n'étant pas libre, on peut pas les modifier. C'est assez figé dans le temps et c'est très peu évolutif. Et donc, c'est vrai qu'on tend actuellement plutôt vers l'HTML5 qui est le, mais bon, là, je m'en mêle un petit peu parce qu'en fait, on parle, là, on va parler de la catégorie des widgets, en fait. Voilà, donc je peux peut-être toucher un petit mot sur les widgets, parce
Bah
que...
oui, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Alors ceux qui utilisent Android connaissent bien, hein, mais
Ouais, voilà. En fait, la question du widget dans les éditeurs de contenu dont on a parlé, Active Inspire, Speechy, Notebook, etc., ce sont des applications qui vont être soit Flash, soit HTML5, et qui vont permettre de faciliter la tâche de conception pédagogique. Par exemple, on veut faire un quiz sur une question de compréhension, un document. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un enfant? Bon, question vraiment, vraiment très simple. Au lieu de faire une liste de questions, là, on va pouvoir intégrer un module Flash qu'on appelle un widget où on va pouvoir mettre une image, par exemple, et puis avoir quatre réponses avec un système d'autocorrection. On va cliquer sur une réponse et puis le logiciel va nous renvoyer la correction automatiquement. Ça va être une possibilité. Et sur notebook 11, le nombre de modules Flash, donc des widgets, est très important. On peut faire plein de choses. Et voilà. Donc moi, j'apprécie beaucoup travailler avec ces petits modules-là, notamment parce qu'ils permettent. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la. Peut-être si on parle de pédagogie avec le tableau blanc interactif, ils vont permettre la création aléatoire de d'items. Voilà, ça c'est particulièrement intéressant avec le TBI. J'y reviendrai.
D'accord. Alors, techniquement, donc, avec un TBI, je vais devoir apprendre à utiliser un nouveau logiciel. Donc, tu en as cité plusieurs. Est-ce que c'est compliqué à prendre en main?
Alors, je dirais que c'est une très bonne entrée en matière si on veut commencer à toucher à l'édition de contenu. Et puis, si on n'est pas très, comment dire, pas très doué ou pas très compétent en matière d'informatique, ce sont des logiciels qui ont été conçus de manière extrêmement intelligente pour un usage très intuitif. Donc, d'une manière générale, c'est un apprentissage qui se fait relativement rapidement et avec finalement assez peu d'investissement personnel. On peut atteindre des niveaux d'utilisation tout à fait corrects avec quelques heures de pratique. Oui, il va falloir apprendre un nouveau logiciel, mais ça va être un apprentissage qui va être largement rentabilisé dans les mois qui vont suivre. Je pense par exemple à le logiciel Notebook. On peut créer des activités sur le logiciel Notebook. Il faut imaginer que c'est comme un Word, sauf qu'il n'y a aucune contrainte formelle. C'est-à-dire, on peut mettre une image, une vidéo, un son, et puis on peut les bouger sur l'écran, on peut associer un son à une image. Et on peut les déplacer comme on veut, c'est beaucoup beaucoup plus simple finalement pour éditer une page qui va ressembler à une activité pédagogique FLE que sur un logiciel traditionnel, enfin plutôt un éditeur comme Word ou Publisher qui sont très contraints formellement. Ça veut dire qu'on va pouvoir en fait faire des cours sur ces logiciels-là qui ne sont pas forcément dédiés au TBI, c'est ça que je veux dire. Ça va devenir un nouveau logiciel d'appui pour la conception pédagogique, même s'il ne s'agit pas d'un cours TBI. Numérique. On va pouvoir éditer ses cours en PDF à partir de ce logiciel-là.
Et on gagnera du temps par rapport à la conception d'un cours sous Word et puis l'exportation en PDF où l'investissement de temps est pas si évident.
Ah non, on va gagner du temps. Les cours sont beaucoup, beaucoup plus sympas, beaucoup mieux présentés, enfin, visuellement beaucoup plus dynamiques. J'encourage tout le monde à essayer, même sans coréen, qui est téléchargement libre. Maintenant, c'est très bien ce qu'ils font.
Et donc, le principal atout d'un TBI, quelle plus-value ça peut apporter? Alors, tu disais donc de faciliter un peu la conception des cours, de rendre des cours plus présentables. Tu vois d'autres atouts au TBI?
Alors, j'ai pas dit ça. Là, on parlait de l'éditeur de contenu. Si jamais on parle de TBI, les atouts sont différents. Donc déjà, le TBI, si on veut parler un petit peu précisément des atouts du TBI, il faut le distinguer avec ce qui lui ressemble le plus, c'est donc le vidéoprojecteur classique avec, admettons, une présentation PowerPoint. D'accord? Ça sera particulièrement ça qui va nous intéresser. Parce que une vidéoprojection avec PowerPoint, ça date de 30 ans maintenant. Donc, ce qu'il y a potentiellement de nouveau, même si ça fait déjà 20 ans avec le TBI, et d'intéressant, ça va être, je dirais, deux éléments notables. Le côté multimédia présentatif, confort du prof. Donc ça, c'est le premier élément. C'est-à-dire que l'enseignant, il va être au tableau, il va avoir accès à tous ces supports multimédia, le son, l'audio, directement au tableau, sans nécessairement repasser par différents lecteurs avec différentes télécommandes, avec des clés USB, avec des boîtiers comme je dois utiliser dans mon école de FLE en ce moment. Donc c'est toujours très contraignant en fait de montrer une vidéo par exemple parce qu'il faut passer par différents canaux. Bon bref, avec un TBI, on a une image et puis tout est accessible au bout du doigt ou au bout du crayon. Voilà, donc ça c'est le premier élément, le confort de l'enseignant par rapport au multimédia. Et puis, d'un point de vue plus didactique, on va noter l'association du son et de l'image. Voilà. C'est cette combinaison qui va, pardon, l'association du son, de l'image et du tactile. Voilà. C'est cette association qui va permettre de travailler sur des choses absolument novatrices et qui vont potentiellement radicalement changer l'enseignement. Vraiment. Potentiellement radicalement. J'insiste parce qu'il y a quelque chose.
Ouais, non, mais je vois tout à fait parce que effectivement, nous on a de grandes salles de cours. L'ordinateur est assez loin du tableau, ce qui fait que, bah, tout bêtement, hein, si je montre un fichier Word au tableau, donc quand il est projeté, si je veux descendre, je suis obligé de recourir à l'ordinateur, puis de revenir, et donc je fais un nombre d'allers-retours comme ça. Bon, c'est bien pour le cœur, hein, mais effectivement, c'est pas très confortable et on perd un peu de temps à faire ces allers-retours entre l'ordinateur et le tableau, alors que si on commande tout du tableau, ça me semble effectivement plus simple. Alors, quand on utilise un TBI, est-ce qu'il faut donc revoir toutes ces préparations de cours pour les adapter, ou est-ce que je peux transférer mes anciennes préparations? En un mot, est-ce que je vais devoir refaire tous mes cours, ou il y a des passerelles possibles entre le matériel que j'ai déjà et puis un logiciel de TBI?
Oui, alors c'est une bonne question. Ça interroge vraiment l'intérêt du TBI. Donc, les cours qu'on a pu concevoir sur papier, ils ont été réfléchis et pensés pour un usage papier. Ça sera une erreur de les transférer, de les changer en support numérique. En principe, le TBI doit être utilisé pour ce qu'il présente d'intéressant. Et on doit essayer de ne pas l'utiliser à tort et à travers, à des mauvais moments du cours, au risque de fatiguer l'attention de l'élève et de faire chuter son taux d'attention, sa motivation et donc son niveau d'apprentissage. Le TBI, on doit vraiment, comment dire, j'ai pas envie de dire qu'on doit s'en méfier parce qu'on va pas se méfier d'une machine puisqu'on la contrôle, mais j'ai souvent observé des enseignants dans le cadre notamment de mon master où j'ai fait une recherche sur les intérêts du TBI qui allait utiliser des ressources qui n'étaient pas faites à la base pour l'utilisation du TBI et qui avaient comme effet direct de ralentir clairement l'apprentissage, de dynamiser interactivement, je mets des guillemets avec mes doigts, de dynamiser un élève à un moment donné parce qu'il va aller au tableau, qu'il va bouger un item, on va faire glisser, déposer, pendant que 10 autres vont être en train de le regarder. Donc on a vraiment une grande passivité. En général, un cours sur papier, il est fait pour travailler souvent individuellement, en petit groupe, puis en grand groupe avec l'enseignant qui va distribuer la parole, ou ça dépend un petit peu de l'approche et du moment du cours, mais le TBI, doit avoir une utilisation spécifique. Alors, on en reparlera peut-être après, mais voilà. Pour la question, pour te répondre, Sébastien, le support papier, on ne doit pas nécessairement le transférer en support numérique. Par contre, au niveau des passerelles, oui, il va falloir éventuellement, hein, si on a un TBI, on va pouvoir rajouter des activités différentes qu'on ne pouvait pas faire sur papier et qui vont être faisables sur le TBI.
Ouais, il y a plusieurs questions qui me viennent à l'esprit en t'écoutant. Parce que tu vois, si effectivement j'ai un support Word, je le projette au tableau dans un cours classique, et les étudiants, les apprenants ont devant eux le même support sur lequel ils prennent des notes, ils complètent des exercices, etc. Le TBI, lui, quand on projette une activité prévue pour le TBI, les apprenants n'ont finalement rien devant eux. Et il y a une possibilité peut-être de leur donner ce support. Comment ils peuvent accéder pendant le cours à ce support?
Alors on peut l'imprimer en format PDF, on peut leur distribuer sur sur leur boîte mail. Donc, ils peuvent éventuellement le regarder après le cours ou l'imprimer pour venir avec pendant le cours. Ça, c'est possible. Mais finalement, une activité qui va vraiment être pertinente sur le TBI, elle n'aura pas spécialement besoin d'être sur papier. Bon, j'insiste, je caricature un petit peu le trait parce que c'est sinon, comment dire, en quelques temps, sur un enregistrement comme ça, on va pas aller, c'est difficile d'aller à l'essentiel, mais bien sûr qu'on peut présenter au tableau et bien sûr qu'on peut faire des activités qui sont de l'ordre de la présentation et puis de dynamiser une présentation grâce à des petites astuces techniques avec le TBI. C'est juste que j'aimerais insister sur ce qu'on peut faire de vraiment spécial avec un.
Eh oui, c'est ça, ça ajoute une pratique dans l'agir professoral, si je veux utiliser des termes techniques, ça ajoute quelque chose en plus. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément faire tout mon cours sur un logiciel TBI, mais juste quelques activités et revenir de temps en temps à la version papier, c'est ça?
Voilà, c'est exactement ça. J'avais fait donc cette expérience qui était, donc j'ai fait deux fois le même cours, et puis donc un cours sur papier plus TBI, avec peu de TBI, et un cours entièrement sur TBI, avec le format papier en plus. Et je l'ai fait sur plusieurs classes, et j'ai comparé les résultats avec une enquête de satisfaction à la fin. Et il est clairement apparu que le cours qui utilisait ponctuellement le TBI, donc très peu de présentation, mais beaucoup d'activités tactiles, ce cours-là avait beaucoup plus fonctionné que l'autre. Plus dynamique, plus motivant. Tous les indicateurs de sensation d'apprentissage de l'apprenant étaient au vert quand l'utilisation du TBI était ponctuelle, au lieu d'être systématique. Et aujourd'hui, l'utilisation a tendance à être systématique. C'est-à-dire quand on a un TBI dans sa classe, on l'allume au début du cours, et puis on l'éteint à la fin. C'est d'ailleurs les conseils que j'ai entendus à la Sorbonne quand j'avais été former les enseignants de la Sorbonne. C'était pour ne pas user les lampes, laisser le tableau allumé. Or, c'est un petit peu dramatique en termes de concentration.
Ouais, c'est ce que tu disais. Ouais, donc c'est vraiment à utiliser ponctuellement comme n'importe quel type d'activité en fait. Je vais pas faire 1 heure et demie d'exercice à trous. Je vais pas faire 1 heure et demie de vidéo. C'est donc de temps en temps avoir recours au TBI pour compléter un projet d'enseignement complet alors.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Je peux prendre peut-être un exemple.
Et vas-y, oui.
Ouais, alors admettons qu'on veuille travailler sur un point, à une étape de systématisation. On a déjà mis en place le repérage, la règle. Les apprenants ont à peu près compris. Maintenant, on va s'entraîner pour fixer un petit peu les mécaniques. On va pouvoir fixer les mécaniques avec deux groupes. On va diviser la classe en trois. Deux groupes vont être sur papier. Et puis un troisième groupe va être au tableau et va fixer l'élément de langue à l'oral, enfin phonétiquement, au tableau, par l'intermédiaire de symboles, en fait, au tableau. Admettons qu'on va pouvoir remettre dans l'ordre des morceaux d'une phrase. Je prends des exemples qui puissent être imagés facilement. Voilà, on va remettre dans l'ordre une phrase, sujet, verbe, je sais pas, complément circonstanciel. Et puis, c'est à l'oral, en touchant des symboles, que l'élève va pouvoir le faire. Puis là, on va pouvoir, donc, il y aura 5 élèves qui seront au tableau ensemble et qui travailleront tous ensemble sur le même exercice pendant un temps donné. Et puis, au bout de, admettons, 6, 7 minutes, tac, on fait tourner, donc ceux qui étaient sur papier passent au tableau, ceux qui étaient au tableau passent sur papier, et puis on va avoir un système de rotation comme ça qui va faire que le temps passé au tableau sera vraiment rendu hyper efficace parce qu'il sera consacré au tactile, qu'il utilisera la fonction association son et image, et que personne ne sera passif, tout le monde sera actif à ce moment-là.
Oui, d'accord. Je commence à saisir un peu tout ce que ça peut changer. Donc, il y a une question qui me vient tout de suite à l'esprit. Le fait de faire venir les apprenants au tableau, là, comme tu le disais dans ton exemple, est-ce que c'est quelque chose qui passe facilement auprès des apprenants? Parce que ce que j'avais pu remarquer, moi, c'était que finalement, on faisait assez peu souvent venir des apprenants au tableau, sauf peut-être quand ils doivent noter des idées d'un groupe ou dans quelques activités spécifiques, mais que ça restait, tu sais, dans l'imaginaire ou dans les représentations, quelque chose finalement, tu sais, de quand on est petit et qu'on disait, bon, bah, venez au tableau, c'était un peu la punition. Est-ce que ça passe facilement, justement, le fait de venir faire venir comme ça les apprenants au tableau qui sont du coup au centre et un peu face à la classe, quoi?
Et alors, bon, J'ai lu des retours d'expérience qui disaient, déjà pour commencer, que le côté technique de l'outil allait prendre le pli sur justement la peur de venir au tableau. C'est-à-dire que l'attention des élèves dans la classe, mais ça marche dans l'éducation nationale, hein, l'attention des élèves dans la classe allait être transposée de l'élève au tableau à l'outil technologique. Et donc faire baisser la pression sur l'élève qui est au tableau. Donc ça va avoir une vertu positive sur cet élément-là. Cela dit, j'ai aussi vu beaucoup d'expériences, et notamment les expériences dont je parlais qui rendaient ces résultats-là, où on faisait venir les élèves au tableau pour plein de choses finalement où on n'a pas besoin de faire venir un élève au tableau. À la base, l'enseignant, il n'a pas toujours besoin de faire venir un tableau pour faire une correction. Il peut faire une correction en distribuant la parole. Qu'est-ce que vous avez mis à cette, pour cette phrase-là, cette phrase-là, cette phrase-là, mettons qu'on corrige un exercice. Avec le TBI, on va avoir tendance à faire venir un élève au tableau pour corriger au tableau. Non, c'est une erreur. À chaque fois, on va perdre 30 secondes. Il faut que le TBI, il accélère le processus d'apprentissage, pas qu'il le ralentisse. Et très, très souvent, on va l'utiliser comme ça, en ralentisseur. Par exemple, en utilisant des ressources type auto-apprentissage qu'on va trouver notamment sur le point du FLE. C'est de très bonnes ressources. Avec exercice de complétion, texte à trou, vrai, faux, choix multiples, etc. On va taper quelque chose au tableau, on va cliquer, est-ce que c'est la bonne réponse, est-ce que c'est la mauvaise réponse? Ça, c'est un exercice d'auto-apprentissage. C'est pas du tout un exercice qui est destiné au TBI. Or, souvent, on va avoir tendance à faire ça. On met un exercice, puis on se dit, c'est le TBI, le fait d'avoir du numérique, ça va justifier l'utilisation de ressources numériques. Pas du tout. Pas du tout. Ça justifie pas du tout, au contraire. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair.
Si, je vois justement ce que tu dis, donc le fait de parfois trop vouloir utiliser son TBI, de faire venir les élèves au tableau pour des activités, et puis aussi dans ce que tu dis, j'entends la critique qui serait d'utiliser des activités qui finalement ne seraient pas vraiment pertinentes avec un tableau interactif en fait.
Bah oui, là, non seulement elle serait pas pertinente, puis elle serait utilisée à tort, finalement. Autocorrection, c'est qu'elles vont corriger finalement la production d'un apprenant automatiquement. Là, le prof est là, quoi. Donc.
D'accord, ouais. Et donc dans ces activités comme ça où l'apprenant peut venir au tableau, tu aurais quelques exemples qui pourraient nous montrer l'utilité dans divers peut-être divers compétences travaillées.
On va pouvoir démystifier le passage au tableau et puis l'encourager et rendre le but, ça va toujours être ça, hein. Ça va être d'encourager un passage au tableau dynamique en faisant en sorte que les autres apprenants de la classe soient dans une activité qui soit pas passive. Donc en général, ce qu'on essaie de proposer le plus souvent dans les activités interactives FLE, ça va être de diviser la classe en groupe, en équipe, et puis de procéder par le ludique. Alors il y a plein de jeux qui vont être possibles, mais on peut faire venir des apprenants au tableau et puis demander à l'équipe, par exemple, je pensais à une activité sur les parties du corps où on a vu déjà en présentation, on a vu en présentation un corps avec les différents noms qui sont associés à chaque partie, et puis dans une deuxième diapo, on va demander à un apprenant de venir au tableau. Et puis toutes les parties du corps ont été découpées et mises sur la droite. Et le groupe doit donner une partie du corps à l'apprenant qui est au tableau. L'apprenant qui est au tableau doit choisir la partie du corps qui a été nommée par le groupe sans se tromper, la faire glisser au bon endroit et donner son nom. Après, on peut compléter en donnant un petit peu plus de contraintes s'il faut. Et donc là, le groupe va guider donc l'apprenant qui est au tableau jusqu'à ce qu'il se trompe. Quand il se trompe, c'est l'autre équipe qui va prendre le relais. Donc toujours, tout le monde est attentif parce que l'équipe qui est en face va vouloir corriger l'autre pour reprendre la main, et puis celle qui a la main va vouloir être précise pour pouvoir la conserver. Donc ça, c'est vraiment un exemple, hein. Et puis donc le corps va se reconstituer petit à petit, et on l'aura fait dans un côté sympa. Bon. Autrement, des jeux de loi où on va toujours travailler sur le son, plusieurs symboles qui vont représenter les équipes, qui vont se déplacer avec un dé virtuel. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure au sujet de l'aléatoire. On va cliquer sur un dé virtuel, puis ça va nous donner un chiffre. On peut faire la même chose avec un mot, on peut faire la même chose avec une image. Donc c'est plus l'enseignant, en fait, qui va toujours être obligé d'être le moteur de l'imaginaire de la classe et le stimulateur du début d'un énoncé.
Oui, d'accord. Je commence à bien voir effectivement, avec par exemple des activités aussi où on pourrait essayer de faire dessiner un plan ou de dessiner un itinéraire sur le plan d'une ville avec les instructions qui viendraient des apprenants et puis d'autres apprenants qui seraient en train de tracer ça sur le TBI pour trouver une adresse exacte. Je vois effectivement le genre d'activité qu'on pourrait essayer de mettre en place avec ça, effectivement.
Donc ça dépend du moment du cours, c'est ça aussi. Il faut l'utiliser à des moments où souvent on est en production, en systématisation, où on a déjà un petit peu acquis les données.
Et justement, on parlait de ce va-et-vient des élèves entre leur siège et puis le tableau. C'était aussi une question de Frédéric. Est-ce qu'il est possible d'avoir des applications sur des tablettes? Je suis toujours un peu dans cet esprit de quelles traces ils vont pouvoir conserver de la ressource et puis aussi comment est-ce qu'ils peuvent l'avoir sous les yeux s'ils ont besoin de l'avoir sous les yeux, dans le cadre d'un exercice ou quelque chose comme ça.
Alors la question de la tablette, elle est évidemment plus pertinente aujourd'hui que jamais, hein. J'étais à Educatis la semaine dernière et pour la conférence qui parlait de l'usage des tablettes tactiles dans l'enseignement, il y a eu 4 fois plus de personnes que prévu. La salle était plus que blindée. Il y avait une file d'attente qui arrivait presque jusqu'à l'entrée. Enfin, bref, c'est vraiment l'attention pédagogique du moment, les tablettes en cours. Ça va être effectivement, je pense, hein, dans les établissements qui auront les moyens, dans un futur proche, ça va être l'annexe, ou même peut-être le support de préférence dans le cours, et puis le TBI sera l'annexe à la tablette. Il faudrait le voir de cette manière-là, parce que tout ce dont je vous parle là, qui concerne l'utilisation du tactile, du son et de l'image, c'est possible sur la tablette. Et donc ça décuple encore les possibilités, puisqu'on n'est même plus obligé de réfléchir à des systèmes pour rendre actif tout le monde quand tout le monde est au tableau, puisque tout le monde a une tablette. Donc l'activité est potentiellement décuplée. Donc, le cours se fait davantage sur la tablette, à des moments clés, avec une mise en commun au tableau. Mais outre la mise en commun, le TBI sera sans doute dépassé par les qualités de la tablette.
Il y a des activités de va-et-vient. Par exemple, je veux prendre une production d'élèves qui a été faite sur tablette et la montrer aux autres sur le smartboard. Ou alors, oh, ben, j'utilise une marque, tu vois, sur le tableau blanc interactif. C'est vrai que smartboard, ça reste un peu l'appellation. Ou tu sais, donner la possibilité comme ça de prendre la commande à distance à partir d'une tablette, c'est possible ça?
Alors, oui, complètement. Avec des tablettes et avec des smartphones, chez Smartboard, je crois qu'ils sont en avance, hein, chez Smarttech. C'est-à-dire que là, on peut, ils appellent ça Smart Response, si je me trompe pas. Mais c'est des activités type évaluation sommative, quoi. Ouf,
D'accord.
ouais, enfin ça dépend. On va poser une série de questions au tableau, et tous les élèves vont pouvoir répondre A, B ou C, et puis ensuite il va y avoir les statistiques de la classe, qui se situe où, etc. Pour les. Alors ça peut être vraiment intéressant, mais faut pas oublier que c'est une évaluation, faut l'utiliser comme, enfin en tant que tel. Après, pour ce qui est de vraiment faire passer du contenu plus précis, plus élaboré de la tablette jusqu'au tableau, je crois que pour l'instant ils sont un petit peu limités. Et là, je conseillerais d'utiliser plutôt des outils Google, quoi, des outils de type Google Doc ou Google Sheets ou des choses comme ça, où là, vraiment, il y a un travail de collaboration et j'ai déjà fait des tentatives, c'est assez génial, hein.
Oui, ben je mettrai le lien aussi vers un autre podcast qui s'appelle e-Teachers. Dans leur numéro 7 ou 8, je crois, il y avait une prof une documentaliste qui a raconté ses expériences justement avec des tablettes en lycée. Ça peut être intéressant. C'est facile de trouver des ressources pour TBI alors?
Il y a Céline, dans T'enseignes-tu, qui a fait un blog, un article qui était pas mal enfin vraiment intéressant là, sur les 12 astuces TBI. Donc dans les blogs, on va retrouver chez les blogueurs des astuces, des quelques cours. Il y a les sites de référence, Smart, Sancoré, Active Inspire. Ils ont tous fait un cloud system avec une mise en partage des ressources. Alors, ça fonctionne pas, et ça, de mon point de vue, ça fonctionnera jamais. Il y a très très peu de ressources, il y a 4 ou 5 ressources, et puis on peut pas du tout être sûr de la qualité. Il n'y a pas de support pédagogique, etc. Bah, il va y avoir Interactif LE, hein. Ça c'est en FLE. Nous on propose ce service-là. Si on a proposé ce service-là, c'est parce que nous on était nous-mêmes enseignants et qu'on cherchait des ressources et qu'on n'en trouvait pas. Donc, on s'est dit que ça pouvait être intéressant, que ça intéresserait les profs d'en avoir. Est-ce que Sébastien, moi peut-être que j'ai arrêté de chercher depuis un moment aussi parce que voilà, mais toi tu en as trouvé d'autres, peut-être que tu peux mieux répondre à cette question-là que moi.
Eh ben non, justement, c'est vrai que Interactif-le, c'était ce qui me semblait le plus pertinent. Mais maintenant, bon, il y a TV5 qui propose des packs pour TBI, mais ça reste les activités qu'ils proposaient avant en format doc et PDF, quoi. Donc c'est pas, disons que c'est un portage de ce qu'ils avaient avant sur TBI pour quelques ressources, quoi.
Ouais, d'accord, ouais, c'est ça.
Donc des vraies activités qu'on peut prendre, modifier, adapter, tout ça, j'ai pas beaucoup d'exemples à fournir malheureusement, non.
Ouais. Mais après c'est la question de la mutualisation des ressources, hein. C'est une vraie question et je sais que je suis pas seul à penser comme ça, mais selon moi, ça ne fonctionnera jamais. Voilà.
La mutualisation, tu veux dire?
La mutualisation, ouais, sur de ce genre de plateforme-là.
D'accord.
On n'y arrivera pas sans mettre les moyens.
Ah oui, d'accord. Oui, tu veux dire que ça ne peut pas être des petites initiatives personnelles comme ça un peu partout. Il faut que ce soit quelque chose de bien cadré avec une relecture pédagogique, etc. C'est ça?
Et voilà, il faut une cohérence pédagogique. Sinon, s'il n'y a pas de cohérence pédagogique, ça va pas fonctionner ni au niveau de l'utilisateur, ni au niveau de celui qui va le poster. C'est pour ça que, par exemple, TV5 Monde marche aussi bien. C'est qu'il y a une activité téléchargée toutes les 7 secondes sur leur site. Donc, c'est un énorme flux. Et c'est parce que c'est très codifié, c'est toujours la même qualité, on sait à quoi s'attendre, on peut faire confiance à l'activité.
Et c'est quelque chose que vous voudriez faire sur Interactif-le, justement, proposer à des profs de partager leurs ressources via votre site?
Alors, on a fait un appel, hein. On a fait un appel à partage comme ça. Nous, on partirait toujours du principe de toute manière que la ressource ne pourrait pas être postée directement, mais qu'il faudrait qu'elle passe par notre service pédagogique, enfin, en l'occurrence Christina, pour qu'elle soit discutée, etc., et puis mise et calibrée pour qu'elle corresponde en fait à la démarche d'Interactif. C'est une sorte de garantie qualité qu'on aimerait bien continuer à proposer sur toutes nos ressources. Et puis, c'est aussi, comment dire, c'est aussi positif pour l'enseignant qui partagerait ses ressources. C'est-à-dire que lui, il pourrait évoluer dans sa pratique à travers cet échange-là. Mais oui, mais par contre, on n'a pas eu beaucoup de réponses, hein. En l'occurrence, ça n'a pas très bien marché notre appel à candidature.
Ouais, bah, il faut encore le temps. Je pense qu'effectivement, ça fait pas mal de temps maintenant qu'on parle de TBI, mais il y a encore finalement assez peu de profs qui conçoivent leurs cours dessus. Et donc, il faut attendre un petit peu, mais je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut se développer, hein. Il faut renouveler l'appel.
Oui. J'étais par exemple, je travaillais à l'Alliance française dans le bureau pédagogique, c'était un de mes premiers stages de Buenos Aires, où le but du jeu, c'était ça, c'était de créer un système de mutualisation des ressources, avec même quelque chose qui était inscrit dans le contrat, c'est-à-dire que les enseignants devaient donner une activité par mois, par trimestre ou par an, c'était vraiment pas beaucoup, hein. Et dire si elle était TBI ou pas, c'était même pas obligatoirement une activité TBI. Et pour autant, le système de mutualisation ne pouvait pas fonctionner. Mais ça, c'est intrinsèque au métier de prof de FLE aussi.
Ouais, je pense que là, dans le cas que tu évoques, je pense qu'il vaut mieux dans ce cas-là faire travailler les profs en binôme et puis leur dire de concevoir une activité à deux. C'est toujours plus simple de fournir une activité qu'on a fait collectivement, tu vois, au jugement des autres, parce que c'est finalement toujours un petit peu ça, que de lancer sa ressource tout seul et de se prendre après une volée de critiques parce que effectivement on n'aura pas pensé à tout, il y aura des choses qui n'auront pas été très bien, etc. C'est pas toujours facile à accepter, hein, tu sais. C'est le genre de critique, de remarque. Donc, travailler en binôme sur un projet de cours, c'est pour moi plus confortable et plus sécurisant peut-être aussi pour le partage après.
Non, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, les écoles qui arrivent à créer une base de données pédagogique, en général, ce sont les écoles qui travaillent comme ça. Ouais, je pense à Eurocentre, qui ont, à ma connaissance, sur Paris, la meilleure base de données pédagogiques conçue par leurs enseignants. C'est ça. Ils ont un temps donné pour le travail en équipe, où ils vont pouvoir, procéder à la création de contenu, voilà, ensemble. C'est vraiment louable comme activité.
D'accord. Je voulais revenir un peu à l'utilisation après cours, c'est-à-dire que quand on a fait des activités ou des choses sur un tableau interactif, comment est-ce qu'on peut laisser une trace aux élèves? Tu avais parlé d'exporter en PDF un petit peu l'écran. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails sur ce travail justement pour donner une trace après cours aux apprenants?
Alors, on va pouvoir sélectionner donc un cours TBI. Ça va avoir l'image de comme une sorte de cours PowerPoint. Il va y avoir plusieurs diapositives. On peut en avoir jusqu'à une quinzaine pour un cours, hein, par exemple. Et on peut sélectionner une, deux, trois ou toutes les diapos et puis les transformer dans différents formats. En général, les éditeurs proposent le format PDF et le format PowerPoint. Voilà. Ou alors le format source, c'est-à-dire notebook, ActiveInspire, etc. On les transforme dans le format qu'on veut. Le PDF en général, c'est celui qui peut être lu par tout le monde. C'est pour ça qu'on parle toujours de PDF. Donc on le transfère en PDF, et puis on peut l'envoyer. On peut envoyer une slide en particulier, par exemple, une slide ou une diapositive. On peut envoyer une diapo en particulier à un élève. Ce qu'on peut faire aussi, par exemple, qui peut être intéressant, c'est ça. On nous propose assez souvent dans les activités lexiques, c'est à la fin des sortes de caractéristiques du lexique qui a été travaillé. Tu vois ce que je veux dire? Avec, par exemple, les animaux, et puis on va partir en différentes branches, les mammifères, les animaux de la ferme, je sais pas moi, les animaux de la campagne, et puis en dessous, les différents animaux.
Ouais, ça fonctionne un peu comme un arbre ou des nuages, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. Carte mentale. Qui est travaillé pour améliorer la mémorisation du lexical. Cette fiche qui va être la dernière diapo de beaucoup de nos activités lexicales, on peut la conserver. On peut la conserver uniquement elle une fois qu'elle est remplie à la fin du cours, parce qu'au début elle est vierge, et ensuite elle est remplie petit à petit. Donc on peut la conserver, et puis la mettre dans un dossier spécifique qui va être le dossier des cartes mentales lexiques. Donc on va avoir au bout d'un moment toutes les cartes lexicales qu'on a travaillées sur tous les domaines, les champs lexicaux qu'on a vus, qui vont être répertoriés dans le même répertoire. Et puis, on peut le faire évoluer, ce répertoire-là. On peut très bien le partager à travers par exemple, je sais pas moi, Dropbox ou alors Google Drive. Voilà. Et donc, ça peut être modifiable en temps réel par les différents éléments d'une classe ou d'un groupe. Et puis, on peut faire évoluer une base lexicale. Je pense qu'au niveau du lexique, c'est particulièrement intéressant de fonctionner comme ça. Est-ce que j'ai à peu près répondu à ta question?
Ouais, très bien. On en arrive un petit peu à la dernière partie, hein, qui serait donc justement un peu les conseils de l'expert. Comment bien choisir son tableau?
Alors, il y a plusieurs choses à regarder. C'est ce que je disais tout à l'heure au niveau de la focale. Maintenant, quasiment tous les tableaux sont équipés d'une focale courte. Ça a l'intérêt d'éviter la projection de l'ombre de l'enseignant ou de l'élève qui est au tableau sur le tableau.
Ouais, donc c'est un vidéoprojecteur qui serait très proche de la surface à projeter, hein.
Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est un critère de sélection. Mais bon, maintenant, la plupart des tableaux sont comme ça. C'est-à-dire que le vidéoprojecteur est directement fixé en haut du tableau et projette depuis une distance de 20 ou 30 cm sur le tableau. Sinon, une deuxième chose, c'est le nombre de touches qu'il peut prendre en compte en même temps. Donc, avant, les tableaux étaient simples touches. Donc, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait juste déplacer un objet au tableau au même moment. Maintenant, les tableaux sont multitouches. Ils vont deux ou quatre touches. C'est-à-dire que on peut zoomer avec deux doigts comme sur un smartphone sur le tableau. Donc ça, c'est multitouche avec deux doigts. Ou alors, on peut envoyer deux élèves au tableau, déplacer un objet en même temps. Donc là, on dynamise quand même plus, et puis on a une plus-value par rapport à une tablette aussi, c'est intéressant de le noter. C'est-à-dire qu'on peut faire des jeux de relais, par exemple. Ça peut être, on divise le tableau en deux, et puis il y a les verbes du premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, même si j'aime pas trop cette appellation-là, c'est pour l'exemple, qui sont dans un nuage en haut du tableau, et puis des catégories en bas. Tac, on envoie les élèves au tableau, ils doivent faire glisser les mots, les verbes dans les différentes catégories, et puis ils le font sous forme de relais, ils se tapent dans la main, puis ça court dans la classe, et là, c'est évidemment super actif, quoi. Ça,
D'accord.
c'est rendu possible parce qu'il y a deux touches. Et maintenant, il y a même quatre touches. C'est-à-dire que deux élèves peuvent venir au tableau et zoomer sur une image en même temps.
D'accord.
Là, c'est un petit peu le top. Moi, j'encourage vraiment le multitouche parce que c'est possible de rendre le cours beaucoup plus dynamique avec ça. Et le dernier élément, c'est le tactile. Est-ce qu'il va être tactile avec le doigt ou avec le stylet? Je sais. Tu t'es renseigné récemment. Hein. Je ne sais pas comment ils ont évolué, mais jusqu'à peu, il y avait uniquement Smart Technology qui proposait un tactile avec le doigt. Et tout.
Ouais, je crois qu'il y a d'autres marques maintenant qui le font aussi, ouais.
Bon, alors, il faut bien se renseigner là-dessus parce que c'est quand même souvent désagréable le stylet. Ils sont pas toujours très bien faits. Ça peut gratter le tableau, ça peut être un peu irritant en fait. Donc, au moins avec le doigt, en tous les cas, pour tout ce qui est glisser-déposer, c'est toujours sympa.
D'accord. En tout cas, tout ce qui utilise le doigt utilise aussi un stylo si on le souhaite, hein.
Oui, exact.
Et il y avait une question de Corentin du Café du Fleu qui demandait quel modèle de TNI semble les plus robustes et les plus simples d'usage?
Ouais, je peux pas répondre à cette question-là. Je sais pas, je sais pas. Moi, je me tournerais vers Smart parce que je connais ces tableaux-là que je travaille avec et ça fonctionne bien dans le temps et qui sont tactiles avec le doigt, qu'ils sont courte focale et qui sont multitouches. Je sais qu'ils fonctionnent bien. Et c'est pas si cher que ça, contrairement à ce qu'on peut penser.
Ouais, alors justement, puisqu'on parlait du coût, il y avait Frédéric aussi qui se disait, mais finalement, si j'ai des tablettes, un ordinateur et un projecteur, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un dispositif TBI?
Bon, s'il a des tablettes, un vidéoprojecteur et un ordinateur, pas spécialement, non. Le travail vraiment intéressant qu'il peut faire au niveau des phonèmes, au niveau de la phonétique, au niveau du déplacement, les phonèmes, peut être fait sur les tablettes. Parce que vous savez que les dernières recherches tendent à montrer ça, en fait. Tendent à montrer cet avantage de la kinesthésie dans l'apprentissage, et notamment au niveau de la phonétique. Ces recherches ont été faites dans l'anglais. Dans l'apprentissage de l'anglais en école primaire. J'aimerais beaucoup citer la chercheuse, mais je ne me rappelle plus de son nom, qui a été financée d'ailleurs par Smart. Moi, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas et je trouve que son travail est remarquable. En tous les cas, la démonstration était que on intègre beaucoup mieux la construction phonétique des mots en manipulant les phonèmes. L'expérience a été faite comme ça, en divisant une classe en deux et en travaillant avec d'un côté avec un enseignement traditionnel de la lecture et de l'écriture de l'anglais, et puis de l'autre côté avec le TB. Et on s'est rendu compte
D'accord.
au bout d'un certain temps que l'apprentissage qui avait été fait en déplaçant et en touchant les phonèmes d'un mot, on se rend compte par exemple qu'avec le même phonème, on peut faire plein de mots, et qu'en combinant les phonèmes, on arrive à avoir des sens différents, etc. Ce côté tactile et kinesthésique au tableau fonctionne vraiment bien pour l'acquisition mentale des structures phonétiques.
D'accord, bah écoute, si tu retrouves son nom, on pourra la mettre dans les notes de l'émission
Oui.
sur le blog, et puis il n'y aura pas de problème, hein, elle ne sera pas offensée.
D'accord.
Sur les logiciels, donc tu as une recommandation particulière ou
Eh bien, c'est ce que j'ai dit. Oui, quand même, quand même. Il y a deux. Donc, la banque de données sur notebook de tous les widgets dont on a parlé. Et vraiment vraiment intéressante, même si c'est pour l'instant en flash. C'est la plus grosse banque de données, hein, qui dépasse largement les autres logiciels. Par contre, le système de chez Sancore pour utiliser les sites internet et pour intégrer des sites internet dans le contenu, dans les diapos, ça c'est pas mal. C'est-à-dire que on peut importer directement le site internet entier dans sa diapositive, alors que c'est pas possible avec notebook. Il va falloir juste mettre le lien, soit un print écran. Là, on va avoir le site qui va être sur la page avec un menu déroulant. On va pouvoir faire glisser tous les liens à l'intérieur de la page, de la fenêtre, vont être actifs. Donc, c'est possible d'avoir du contenu du cours et le site sur la même diapo. Ça, c'est vraiment pas mal. Enfin, il a vraiment bien évolué Sancore, et maintenant, il est tout à fait recommandable pour pas mal de raisons.
Ouais, et puis gratuit, open
Et
source
puis,
et...
gratuit, open source, libre de droit, voilà.
Ok. Et peut-être des formations à nous conseiller, parce que moi, du coup, ça me donne bien envie d'aller explorer plus en détail toutes les possibilités qui sont offertes avec un smartboard.
Oui, alors les formations, il y en a plusieurs, hein. Il y a plusieurs, comment dire, structures qui proposent des formations. Il faut faire attention que ce soit pas des formations trop techniques, parce que comme je le disais tout à l'heure, le technique finalement c'est assez rapide. Il y a beaucoup de centres en fait qui forment enfin je pense plutôt à l'éducation nationale, qui vont former en fait leur équipe d'enseignants avec les formateurs qui sont des formateurs du matériel. Donc, par exemple les formateurs Smart, mais en fait eux ils sont pas du tout pédagogues. Donc ils vont avoir une vision des choses très ciblée sur l'utilisation de les fonctionnalités du logiciel. Alors c'est important.
Ah oui, c'est important à savoir, oui.
Faut compter au moins une vingtaine d'heures quand même, hein, pour une vingtaine d'heures de formation pour réussir à saisir les fonctionnalités. Mais tant qu'à faire passer 20 heures en formation, c'est quand même pas tous les jours qu'on peut avoir 20 heures, autant que cette formation soit déjà orientée pédagogie. Et puis, autant que possible, pédagogie de notre discipline. Donc pour ça, ben, je vais pas nécessairement citer tous les gens qui font ça parce que c'est peut-être parfois un peu des concurrents à Interactif-le, mais Interactif-le propose des formations qui répondent à cette question-là, donc technico-pédagogique. Et puis derrière, une formation plus complète sur le point de vue didactique, avec de la conception de ressources et de l'exploration des vrais intérêts, des pertinences de l'outil en tant qu'objet tactile. Et puis avec l'intégration des tablettes aussi. Comment faire pour allier le TBI aux tablettes? Faire en sorte que ce soit intéressant de travailler avec les deux.
Et sur Interactif-le, vous proposez aussi des formations à l'étranger?
Oui, on propose des formations à l'étranger. En fait, on travaille uniquement chez le commanditaire, donc effectivement, on intervient uniquement chez les gens qui vont nous demander une formation. Voilà. Ça peut être un centre de langue en France ou à l'étranger. À savoir que les formations Interactif-le, celles qui sont didactiques, donc le deuxième volet pour les gens qui ont déjà eu une formation technique, donne lieu à la création d'un contenu pédagogique qui est ensuite diffusé sur le site, à la rubrique les ressources de nos formations, qui sont en réalité les ressources qui ont été faites par les enseignants, qui ont l'intérêt d'être calibrées selon le standard Interactif-le et donc vraiment exploitable. Chaque ressource est accompagnée d'une fiche pédagogique explicative et d'une fiche apprenant avec des exercices papier.
D'accord. Eh bien, Jean, merci beaucoup pour tout cet entretien. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet alors?
Je crois pas que je sois très bien caché sur Internet. C'est facile de me retrouver. Et sinon, on peut me trouver sur Interactif. Il y a un contact. Je regarde les mails tous les jours. On peut m'envoyer un mail sur le site d'Interactif. Il y a aucun problème.
D'accord, eh bien je mettrai les liens sur les notes de l'émission. Merci beaucoup, Jean.
Ben merci Sébastien. J'espère avoir réussi à pas trop m'emmêler les pinceaux dans les explications.
Ah non, 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 pour moi c'était très clair. Mais après, évidemment, il faut penser à comment utiliser cet outil, comment bien l'intégrer et l'utiliser intelligemment. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions à se poser avant la mise en application, quoi. Mais non, c'était très intéressant. Je te remercie beaucoup.
Eh bien, mais moi de même. Et puis merci surtout de t'être réveillé à 4 h du matin pour faire.
Ouais, ça va, ça va. Voilà, c'est terminé pour ce dossier. Et on va passer maintenant à la présentation d'un outil collaboratif d'édition numérique qui s'appelle Éducation et numérique avec Claire Touchard. Alors, pour parler aujourd'hui d'un outil qui s'appelle Éducation et numérique, je reçois Claire Touchard, qui est, on peut dire, éditrice numérique. Bonjour Claire.
Bonjour.
Alors Claire, je voudrais vous laisser le soin de parler un petit peu de la naissance de ce projet Éducation et numérique et peut-être de ses objectifs.
Oui, eh bien écoutez, l'éducation s'empare peu à peu du numérique, un peu moins en France peut-être que dans les pays anglo-saxons aujourd'hui, mais il y a de plus en plus de profs qui utilisent le numérique dans le cadre de leur enseignement et qui ont des blogs. Il y a beaucoup de profs qui ont des blogs. Dans les écoles en France, il y a des espaces numériques de travail qui sont en fait des intranets qui permettent de faire la gestion des collèges et des lycées. Et dans lesquels, en fait, au départ, on n'avait pas vraiment, on n'avait pas vraiment imaginé de parler de contenu. Aujourd'hui, ça devient une vraie nécessité. Finalement, notre projet rencontre aujourd'hui un intérêt parce que c'est un outil qui a été créé par des éditeurs, je pense, qui ont une vraie connaissance du milieu scolaire, des besoins des enseignants et des élèves. Et on a cherché à faire un outil très simple, très facile à utiliser, qui ne nécessite pas des heures de lecture d'un manuel et qui permet d'intégrer tous les médias disponibles, images, son, texte, dedans de façon extrêmement simple. On peut même d'ailleurs fabriquer des contenus ailleurs et les importer dans une activité éducation et numérique. Et éducation et numérique et SCORM, c'est un mot barbare qui veut dire que ça répond à des impératifs techniques qui font que c'est compatible avec des Moodle ou des Blackboard ou des outils qui évoqueront peut-être quelque chose auprès de vos auditeurs. Et donc, on peut, ça rend en fait les activités créées dans l'éducation et numérique transportables à l'intérieur de l'environnement qu'on veut d'ailleurs, hein, que ce soit son blog ou son Moodle dans son école ou son université.
Oui, et puis c'est un outil libre et ouvert. Donc, quand on parle de logiciels libres et ouverts, c'est qu'ils sont gratuits, c'est ça, et modifiables.
Oui, alors en fait, le principe, c'est effectivement que viennent sur cette plateforme des centaines d'auteurs pour constituer un corpus d'activités dans tous les domaines de l'enseignement que les professeurs peuvent faire à destination de leurs propres élèves, mais s'ils les publient, ils les mettent à disposition de tous. Et je suis particulièrement attachée à la question des difficultés récurrentes. Les élèves à tous les niveaux, à la fin du primaire, dans le courant du secondaire, dans l'apprentissage des langues, sont confrontés à ce qu'on appelle les difficultés récurrentes que tous les enseignants connaissent. Et chacun a sa méthode pour faire comprendre, je ne sais pas quoi, comment gérer l'accord du participe passé des verbes pronominaux ou les verbes irréguliers ou les faux amis en anglais. Et au fond, les élèves, selon leur sensibilité, vont accrocher à une technique ou à une autre. Ce que je disais, on espérait que sur la plateforme, les étudiants trouveraient le moyen de résoudre leurs difficultés au-delà, évidemment, des cours et des exercices d'apprentissage.
Alors justement, donc c'est pour toutes les matières ce projet, et ça c'est louable. Et en plus de ça, donc c'est fait pour une utilisation en cours par le prof ou à la maison pour les élèves, ou les deux peut-être.
Eh bien, à l'origine, c'était destiné aux élèves. Et à l'origine, on voulait mettre à disposition des élèves gratuitement. Un site dans lequel tous les contenus auraient été faits par des professeurs en poste, parce que beaucoup de sites de révision et d'entraînement sont faits par des étudiants et des gens qui ne sont pas vraiment en classe et beaucoup sont payants et beaucoup sont pas formidables et donc on s'est dit qu'en donnant la possibilité aux profs de mettre leur savoir-faire et leur meilleur contenu à la disposition des élèves, on participait à l'égalité des chances. Donc c'était un de nos objectifs. Et puis pour mettre des contenus formidables à disposition des élèves, il fallait qu'on crée l'outil qui allait permettre aux enseignants de créer ces fameux contenus. Et du coup, on a été amené à mettre à mettre de côté en fait la création des sites élèves et à développer l'environnement auteur. Donc on a créé cet environnement auteur que je vous invite à aller essayer, à vous inscrire, c'est hyper simple, et puis à créer vos contenus. Alors notre côté éditeur a voulu que pour que les élèves, justement, parce que vous dites que c'est toute matière et tout niveau, oui, absolument, c'est le cas, pour qu'effectivement on puisse aussi bien utiliser éducation et numérique pour faire des mathématiques que pour faire de la philosophie ou de l'histoire. Il y a une chose sur laquelle donc chacun peut mettre son savoir-faire et faire ses cours comme il l'entend, mais le formatage au moment de la publication est identique toujours. C'est-à-dire que l'élève va toujours se retrouver, l'étudiant va toujours se retrouver dans le même environnement, avec son sommaire à droite, sa page à gauche, le sommaire qui lui permet de savoir où il en est dans la progression de l'activité, qui peut être courte ou longue, avoir une page ou 5 ou 10 pages. Et donc, on nous a souvent dit que notre environnement était rassurant, en fait, parce qu'il est très simple. Donc, c'est aussi simple de créer des contenus que de faire les exercices et de faire les activités.
D'accord. Et alors justement, si un prof décide de créer une activité, quels sont les outils qu'il a à disposition pour faire son activité ?
Alors, il a à sa disposition pour l'instant, puisque l'outil se perfectionnera par la suite avec des templates nouveaux. Mais pour l'instant, en fait, on peut faire des pages simples, donc des feuilles blanches sur lesquelles on peut mettre ce qu'on veut, du texte, de l'image, du son, de la vidéo. Et puis, pour les exercices, on peut faire des glissés-déposés. On peut faire, dans les glissés-déposés, en fait, on peut intégrer du son et de l'image, et évidemment, bien sûr, du texte ou de la vidéo, des QCM et des QRM, dans lesquels, pour l'instant, on ne peut pas intégrer du son et de l'image. Mais je vous invite éventuellement, si ça peut intéresser les auditeurs, pour voir comment on peut essayer de contourner la difficulté dans les QCM et les QRM. Il y a une activité en anglais qui s'appelle Diagnostic Oral, d'un de nos auteurs qui s'appelle Pascal Catoire. Et elle a assez bien contourné la difficulté en mettant l'extrait sonore dans la page blanche ou dans la consigne de l'exercice, et puis le QCM dessous. Et donc, ça marche très bien. Pour l'instant, il y a et des textes à trous. Donc ça, ce sont tout ça des outils que vous connaissez. Mais par exemple, là encore, Pascal, là encore, elle a fait des textes à trous avec des extraits sonores. Donc en fait, on écoute l'extrait et on remplit le texte à trous avec ce qu'on pense avoir entendu.
D'accord. Et donc les outils vont amener à se diversifier par la suite ou à se développer?
Oui, on est en train de il y a un modèle qui serait vraiment formidable et qu'on va bientôt développer, qui est en fait l'idée de pouvoir faire une carte sur laquelle on puisse faire du drag drop d'étiquettes, et ça pourrait évidemment servir aussi bien dans l'enseignement des langues qu'en géographie ou en histoire, qu'en SVT ou on pourrait faire des expériences. Enfin, donc on est en train de faire ça, et puis on va bientôt mettre en ligne une page performance qui permet à l'enseignant d'évaluer la performance de l'élève et de lui conseiller telle ou telle activité pour se perfectionner.
Ah oui, on peut demander donc aux élèves de produire un texte même.
Alors ça c'est une question, la classe inversée, ça c'est une question assez nouvelle au fond, et on se rend compte que ça devient, c'est une vraie demande. Donc aujourd'hui il y a deux modes en fait de sauvegarde, on va dire, des activités. Soit on les sauvegarde dans son espace perso, et auquel cas on est le seul à pouvoir s'en servir, soit ils sont publics, on les publie et ils sont publics. Et à partir de là, bien entendu, on peut les exporter sur son blog ou dans son Moodle. On va créer dans la prochaine version un statut intermédiaire qui permettra en fait de publier dans un environnement restreint, celui de la classe ou celui de l'école ou celui de la ville, un environnement que l'enseignant pourra lui-même déterminer, qui permettra du coup à des élèves de faire des contenus. Parce qu'aujourd'hui, les élèves peuvent évidemment aussi s'inscrire sur la plateforme et faire des contenus, c'est sans problème. Sauf que s'ils les publient, ils vont se retrouver dans un catalogue de contenus qui sont essentiellement des contenus faits par des profs. Alors, il y a des élèves formidables qui peuvent faire des contenus pour leurs congénères, mais ce n'était pas le but initial. Mais bon, voilà, ça fait partie des choses qu'on va développer.
D'accord. Et alors, une petite question en tant que prof et ou auteur. Est-ce que je peux avoir un retour sur les activités que mes élèves ont faites ? Est-ce que je peux voir leurs réponses ? Si je suis auteur, savoir combien de personnes ont fait mes activités ? Et si je suis prof et que je conseille à mes élèves donc les activités d'un collègue, est-ce que je peux voir leurs réponses et évaluer justement leur progrès ?
Pour l'instant, non. Ce que vous pouvez faire, c'est exporter. Vous pouvez exporter l'activité dans le Moodle. Et à partir du Moodle, vous devriez pouvoir, qui lui-même, évidemment, est un LCMS. Donc, en fait, lui, il connaît les étudiants et les élèves. Donc, à partir de là, oui, vous allez pouvoir... Vous devriez pouvoir récupérer les notes de vos élèves.
Mmh. Donc, juste pour rappel, hein, Moodle, c'est une plateforme d'apprentissage et le LCMS, c'est Learning Content Management System, quelque chose comme
ça ? Oui, voilà.
Ouais. Non, mais c'est des termes après qu'on manipule beaucoup, mais parfois, on peut ne pas savoir de quoi il s'agit, en fait. Hein. Très bien. Alors, une petite question. Vous êtes des éditeurs. Et ouais. Si je soumets une activité et je ne sais pas, elle est peut-être. Moi, je la trouve très bien. Mais au final, les autres utilisateurs ne la trouvent pas si bien que ça. Est-ce qu'on a justement un cadrage quand on est auteur ? Est-ce qu'on doit suivre une charte ? Est-ce qu'on a quelqu'un pour nous guider ?
Alors, sur le principe, on se présente un peu comme Wikipédia, c'est-à-dire qu'on est une plateforme sur laquelle tout un chacun peut venir créer ses contenus, faire son article Wikipédia. D'autres personnes ne peuvent pas venir rajouter du contenu. Ce que je veux dire, c'est par là, c'est dans un article de Wikipédia, plein de gens, enfin tout le monde peut intervenir. Et puis le nombre de modérateurs est extrêmement limité parce que je crois que par exemple sur le français, il y en a 4 qui modèrent les contenus de Wikipédia, mais la communauté elle-même modère. Donc, c'est ça qui est très intéressant dans Wikipédia, c'est que la communauté elle-même modère les contenus. Alors, chez nous, tout le monde peut venir créer ses contenus. Et si c'est pas terrible, les gens n'iront pas. Et par contre, nous, on va développer un système qui va faire en sorte que les meilleures activités afficheront des petites étoiles qui montreront, comme sur Amazon, que voilà, telle ou telle activité est super bonne. Alors, il y a, on a créé des contenus d'amorçage parce que en fait pour démarrer l'activité sur le site sur la plateforme on a contacté nous-mêmes des auteurs et on les a fait travailler dans certaines matières en anglais, en histoire, on a un nouvel auteur en maths, en SVT, et donc ces contenus-là sont totalement validés par nous. Mais on ne valide pas tous les contenus de tout le monde. Bien entendu, on regarde ce qu'il y a sur la plateforme et s'il y a des choses horribles, on les supprime. Et puis, éventuellement, on peut par contre être amené, ce que vous disiez, à proposer à un auteur dont on voit une activité intéressante, mais peut-être pas complètement achevée, de l'aider à travailler dessus.
Et si, par exemple, moi, je regarde en tant que prof, je trouve une activité que je trouve très bien, mmh. Je me dis, tiens, on peut encore l'améliorer. Est-ce que je peux la modifier moi-même ?
Oui, alors sur le principe, on a actuellement, on ne peut pas, comment dire, je recommence. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est de pouvoir s'emparer de l'activité de quelqu'un, puisqu'on est en Creative Commons, et puis de pouvoir modifier une activité et la mettre à son nom. Donc, les activités avec lesquelles on peut faire ça sont des activités dans lesquelles il n'y a pas d'image, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de médias externes, puisque chacun est responsable de son contenu. Donc, on ne peut le faire qu'avec des activités qui n'ont pas de médias externes. Mais on peut tout à fait s'inspirer, d'une activité de quelqu'un. Absolument. D'accord. Les profs le font beaucoup, ça.
Ah oui, moi tout le temps.
Bah oui.
Alors justement, on voit que ce projet a beaucoup de potentiel, beaucoup de possibilités. Comment est-ce que vous comptez le développer alors ?
Alors, on est en train d'écrire les. Donc, en fait, l'outil que vous avez vu, que vous avez testé, c'est un prototype. Alors, c'est un prototype assez sophistiqué permet... Il y a déjà pas mal de monde inscrit. Il y a pas mal d'activités dedans. Il y a plus de 200 profs actifs. Il y a plus de 150 activités dedans. C'est ouvert juste depuis quelques mois. Lundi, il y a 10 personnes qui se sont inscrites. Et donc, nous sommes dans l'urgence de développer la version 1, puisqu'on est là dans ce proto V0, qui verra le jour dès que possible. Enfin, le développement est un peu long. Mais en attendant cette version-là, on l'a fait connaître à travers les blogs, à travers Twitter, à travers Facebook, à travers LinkedIn. Et ça commence à y avoir pas mal de monde qui s'intéresse.
Et justement, si des gens s'intéressent, comment est-ce qu'ils peuvent vous aider ?
Alors, ils peuvent nous aider en créant des contenus dans la plateforme, dans des matières qui n'existent. Alors, si une matière n'existe pas, c'est-à-dire que si on va sur le catalogue et puis on voit que sa matière n'existe pas, ben, ça n'existe pas. Pourquoi ? C'est parce qu'il n'y a pas de contenu dans cette matière. Dès qu'on crée un contenu dans une matière, eh bien, cette matière apparaît. J'invite les professeurs auteurs à s'inscrire et à faire des contenus, à éventuellement nous proposer leurs compétences pour participer à la construction de contenus d'amorçage, et en particulier en FLE, en français langue étrangère, par exemple, parce que ça, c'est une formidable manière de sortir des frontières et de toucher des gens qui enseignent de différentes manières dans différents pays. Pour l'instant, il n'y a pas de FLE, par exemple. Voilà. Et nous rémunérons les enseignants que nous prenons sous contrat pour une activité ou pour plusieurs si la proposition qui est faite nous intéresse. On est comme un éditeur, on peut nous proposer un manuscrit, si je puis dire.
D'accord, eh bien l'appel est lancé, donc on va peut-être rappeler le site de l'outil, donc c'est assez simple, c'est www.education-e-numérique.fr. Et à partir de là, c'est vrai que c'est très simple, hein. C'est un outil très fluide, très facile d'utilisation. Donc, je mettrai bien sûr le lien dans les notes de l'émission et sur le blog artdufleu.net.
Alors, est-ce que je peux juste faire une petite précision ? Je conseille d'aller sur www.education-e-numérique.org qui vous amène sur le site qui lui-même montre un tas d'activités et vous permet de vous diriger vers l'environnement auteur si on a envie de s'y mettre. Voilà.
D'accord. Claire Touchard, merci beaucoup.
De rien, bah écoutez, merci à vous.
Et bonne continuation à Éducation et Numérique alors.
Et à bientôt peut-être.
À bientôt.
Au revoir. Au revoir.
Et on commence cette rubrique fourre-tout avec un blog à découvrir, un blog qui s'appelle « Jouer avec le FLE » de Madame Devine. Alors, beaucoup de choses hein, sur ce blog. Vous pouvez retrouver des activités, des ressources, des outils, de la phonétique, comment travailler la politique, la musique, quelques films, et puis aussi des activités sur les débats et les discussions. C'est un blog très riche, très complet, régulièrement mis à jour, donc je vous invite vraiment à aller le découvrir. Vous retrouverez bien sûr les liens dans les notes de l'émission et sur le blog artdufleu.net. Et puis vous pourrez regarder aussi, elle a d'autres outils où vous pouvez la retrouver, et notamment Kit Fleu, dont je parlerai dans un prochain numéro, avec la présentation de beaucoup d'outils que vous pouvez utiliser avec vos apprenants. On continue avec deux blogs audiovisuels. Donc le premier, ça s'appelle Grammaire audiovisuelle sur Internet, et le deuxième, Lexique et vidéo sur Internet. Alors, le principe de ces deux blogs, c'est de récupérer des ressources et des activités un peu partout sur Internet et de les organiser sous forme de leçons. Donc pour la grammaire audiovisuelle sur Internet, eh bien c'est très simple, hein, c'est des points de grammaire comme les adjectifs démonstratifs, le passé composé, etc. Et donc à chaque fois vous aurez des vidéos, des imagiers pour expliquer le fonctionnement et puis des exercices d'entraînement. Et pour le lexique, on fonctionne par thème. Donc vous pouvez avoir le lexique de l'automobile, le lexique du vin, et avec des activités en fonction des niveaux, comme par exemple parler du vin pour un niveau B2. Donc ces deux blogs sont assez intéressants parce qu'il y a beaucoup de ressources qui sont présentes. Il y a une organisation qui est là pour vous aider justement à construire un cours. Donc je vous les recommande fortement. Et vous trouverez bien sûr toutes les références et les liens dans les notes de l'émission et sur le blog artdufleu.net. Sur le Café du Fleu maintenant, un entretien très intéressant avec François Muller, concepteur de Respire, le réseau social de l'éducation. Alors dans cet entretien, il s'intéresse à une question très importante pour moi qui est diversifier ses pratiques. Et il donne trois idées pour vous aider à diversifier vos pratiques de classe. Trois pistes à creuser donc pour essayer de diversifier vos cours, comme partager les rôles, les responsabilités, faire construire collaborativement, progressivement la trace écrite du cours, donc avec l'approche heuristique, et puis aussi proposer des images ou tout autre support graphique comme base de départ. Donc cet article, enfin cet entretien est très très intéressant, je vous invite vraiment à le lire, donc sur le Café du Fleu, vous aurez bien sûr toutes les références dans les notes de l'émission et sur le blog. On continue avec le site Enseigner le français avec TV5 Monde, avec cette fois une exploitation de l'émission Le Dessous des Cartes sur l'histoire du racisme. Donc c'est un thème très délicat mais très important à traiter en français langue étrangère. Alors ça c'est pour les niveaux B1 et B2. Bien sûr, il va falloir comprendre l'émission avec donc des activités de compréhension, mais l'objectif est aussi de pouvoir participer à un débat. Alors au niveau B1, ce sera un peu de voir les structures de la prise de position, alors qu'au niveau B2, c'est un peu plus subtil avec les structures qui permettent de se distancier, de prendre de la distance dans l'argumentation. Comme d'habitude, les fiches sont extrêmement bien faites, les activités sont cohérentes, s'enchaînent bien les unes avec les autres. Donc vous pouvez bien sûr télécharger le tout sur le site de TV5 Monde, vous avez la fiche enseignant, la fiche apprenant au format PDF et au format doc. Donc ça pour le niveau B1 et ça pour le niveau B2. Vous pouvez aussi télécharger les transcriptions. Et comme vous le savez depuis un petit moment maintenant, et bien sur TV5, vous pouvez télécharger le pack complet avec toutes les fiches enseignant, toutes les fiches apprenant, les transcriptions et bien sûr la vidéo support. Je vous invite vraiment à faire cette activité. La vidéo dure 13 minutes 40, mais vous pouvez bien sûr couper et prendre carte par carte, donc sur l'histoire du racisme. Et tous les liens sont disponibles dans les notes de l'émission et sur le blog artdufleu.net. Et on termine cette rubrique fourre-tout avec le blog de Kelly Fleu. Alors c'est un blog très intéressant parce qu'en fait il s'intéresse à l'actualité française du moment et il propose des activités. Donc vous avez en fait plein de documents authentiques qui sont partagés, donc des articles, des vidéos, des images, etc. Et puis tout un tas d'activités sur des thèmes d'actualité. Donc là par exemple, si on regarde les derniers articles, c'était sur l'ouverture de la campagne des Restos du Cœur, quelque chose sur Noël aussi, et puis sur les traditions de la nouvelle année. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de blog sous la main pour agrémenter vos cours, pour les faire suivre l'actualité française du moment. Donc c'est particulièrement bien d'avoir ça sous la main. Merci à Kelly et bravo pour ce travail sur ce blog. Voilà, c'est terminé pour ce numéro 11 des Arts du FLE. Je vous souhaite encore une très bonne année 2014. Je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent sur Facebook. On a dépassé les 300 j'aime, c'est super. Merci aussi à tous ceux qui commentent sur Twitter, sur Google+, sur la communauté Google+. Vous pouvez bien sûr continuer à le faire pour ce numéro, hein, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me soutenir en faisant un don PayPal, ça permet toujours d'aider à payer les hébergeurs et puis aussi tous les petits logiciels que j'utilise pour produire ce podcast. Merci surtout à tous ceux qui me contactent pour présenter leurs projets, pour parler de leurs activités. Je suis très attentif à tout ça et je manquerai pas de vous donner la parole. Si vous avez envie de présenter quelque chose que vous faites en classe, de parler d'une de vos pratiques ou d'un de vos projets, n'hésitez surtout pas à me contacter, je serai ravi de vous donner la parole et on fera un entretien ensemble. Merci encore à tous, merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Je vous dis à bientôt et d'ici là, bon cours !